Bonsoir Mathieu Laurent pour le journal.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Haro sur l'huile de palme. La FNSEA appelle ses adhérents à occuper d'ici demain matin 14 sites stratégiques. C'est bien, selon Yannick Jadot. Sans round-up dans les champs de colza, ce serait encore mieux, ajoute l'eurodéputé. L'homme arrêté en mars dernier dans le Calvados a été présenté comme un cadre de l'organisation État islamique. Ahmed H n'a pas participé à un massacre de masse à Tikrit, selon son avocat. Précision dans un instant d'Emmanuel Leclerc. Amer, c'est le lendemain de G7. Serein, le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai. Quelle refonte en vue compte tenu des sautes d'humeur et menaces commerciales américaines? Invitée de cette édition, Marie-Françoise Renard, agrégée d'économie et spécialiste de la Chine. La FNSEA tape du poing sur la table et cible 14 raffineries et dépôts de carburant qui seront bloqués demain en début de matinée. 3 jours de blocage reconductible. Le syndicat compte ainsi faire pression sur le gouvernement qui ouvre la porte à l'huile de palme. En témoigne le récent feu vert donné au site Total de la Med qui va se reconvertir en centre de production de biocarburant. Un non-sens, une incohérence selon la FNSEA. Les ONG de défense de l'environnement, elles aussi, dénoncent cet appétit pour l'huile de palme, tout comme le député européen Yannick Jadot, qui n'oublie pas au passage de condamner les pratiques du premier syndicat agricole.
Je suis très heureux que la FNSEA s'oppose également au projet d'importation d'huile de palme sur la raffinerie de la Med. L'huile de palme, c'est la déforestation en Asie du Sud-Est, c'est une contribution extrêmement importante au dérèglement climatique. Maintenant, j'aimerais aussi que la FNSEA ne propose pas simplement comme alternative des champs de colza à perte de vue, largement arrosés de pesticides qui contribuent en même temps à la mortalité dramatique des abeilles, à la disparition de la biodiversité et des apiculteurs. La FNSEA bloque les raffineries pour défendre la culture de colza en France, qui fournit une huile alternative à l'huile de palme. Alors combattons ensemble ce projet à la Med, mais combattons ensemble aussi des modèles agricoles très intensifs, des agrocarburants qu'on appelle de première génération, qui de toute façon ne sont pas bons pour l'environnement et ne sont pas bons pour l'agriculture.
Des propos recueillis par Sarah Petitbon. À l'annonce de son arrestation et de sa mise en examen, l'homme a été aussitôt présenté comme un cadre de l'organisation État islamique. Ahmed H, appréhendé en mars dernier dans le Calvados, s'est mis en examen pour terrorisme, aurait participé au massacre de 1700 soldats à Tikrit en 2014. Ahmed H s'appelle Ahmed Hamdan Mahmoud Ayash Al-Aswadi. C'est son avocat qui vient de livrer son nom au complet. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Emmanuel, l'avocat de Ahmed Hamdan, conteste ces accusations point par point.
Oui, c'était déjà une affaire inédite avec cette première mise en examen d'un réfugié irakien en France soupçonné de crimes de guerre, avec une surveillance rapprochée, puis une interpellation en mars dernier par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, dossier instruit au pôle crimes contre l'humanité du parquet de Paris, que l'on connaît notamment pour ses dossiers rwandais par exemple, pôle des crimes contre l'humanité, où les mises en cause ont souvent contester leur responsabilité dans le génocide. Tout dépend évidemment des témoignages à charge. Et là, première affaire concernant Daesh et première contestation du mandat d'arrêt lancé par Bagdad et qui a conduit à cette arrestation d'Ahmed Hamdan. Son avocat, qui a tenu une conférence de presse à la mi-journée, dément effectivement que son client soit un ex-chef de Daesh pour la région de Samara et encore moins l'un des acteurs du premier grand massacre de Daesh sur la base militaire de Spiker en 2014. Plusieurs centaines de jeunes soldats, la plupart chiites, exécutés un par un, filmés pour la propagande et jetés dans des fosses communes. Maître Mohamed El-Monsaf affirme détenir les preuves que son client n'était pas sur Tikrit à cette époque-là et surtout qu'il a combattu Daesh au début du conflit.
De 2007 à 2014, il était membre important du service de sécurité à Tikrit. Il était du côté du gouvernement irakien. Ses principales participations aux différentes actions qui ont été menées contre Daesh à Samara, plus précisément et plus généralement sur la région de Salah ad-Din. Il y aura des éléments très précis qui seront communiqués au juge d'instruction. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Le principal accusateur a été condamné à mort par pendaison en août 2017 et il a été exécuté. Je vous redis, ce dossier ne repose sur aucun élément grave et concordant.
Emmanuel Leclerc, qu'en disent les services qui connaissent le structure et rouage de l'organisation État islamique?
Eh bien, écoutez, là où l'histoire est effectivement encore très trouble, c'est que selon nos informations, les services de renseignement occidentaux ne considèrent pas qu'Ahmed Hamdan était un haut cadre de l'État islamique de Daesh, comme l'affirme le mandat d'arrêt international délivré par Bagdad via Interpol.
Merci à vous, Emmanuel Leclerc. De quoi alimenter les soupçons de fraude en Irak? Un immense incendie a ravagé le plus important dépôt de bulletins de vote du pays, situé à l'est de Bagdad, bulletin issu des législatives du 12 mai dernier, qu'il s'agissait de recompter comme s'y est engagée la commission électorale. Le porte-parole du ministère irakien de l'Intérieur affirme que la plus grande partie des urnes se trouve dans un autre bâtiment qui serait pour le moment préservé. La colère du jour, d'après G7, l'Allemagne accuse Donald Trump de, je cite le ministre allemand des Affaires étrangères, détruire la confiance avec ses tweets. Extrait du communiqué de l'Élysée, soyons sérieux et dignes de nos peuples. Donald Trump lui accuse le premier ministre canadien Justin Trudeau d'avoir, je cite, poignardé les États-Unis dans le dos avec ses déclarations polarisantes. Fin de citation. Rappelons que les États-Unis se sont retirés in extremis du communiqué final. Comment l'Europe, partenaire traditionnel des États-Unis, sort-elle de cette épreuve? C'est une correspondance de Bruxelles de Johanna Hochstein.
C'est bien un message d'unité que les Européens ont voulu afficher au G7 face au président américain. Ils ont d'ailleurs tenu à accorder leur violon en se réunissant en petit comité à l'initiative du président français avant de rencontrer Donald Trump, Emmanuel Macron, qui a souligné, je cite, que le comportement américain conduisait à recréer des alliances et à reforger le front européen sur le commerce international, sur le changement climatique et même sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la Russie. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie ont fait front commun. Le nouveau Premier ministre italien a tout de même fait peur à ses partenaires quand, au début de la réunion, il a soutenu dans un tweet la position américaine de réintégrer la Russie au G7. Russie qui avait été expulsée du club en 2014 après avoir annexé la Crimée. Giuseppe Conte a finalement fait marche arrière. Reste à savoir maintenant si les Européens vont parvenir à maintenir cette unité alors que Donald Trump menace de s'en prendre aux voitures européennes. Les voitures allemandes sont en première ligne. L'Allemagne pourrait chercher à affaiblir la riposte des Européens après l'imposition de droits de douane par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Une réponse moins tranchée qui ne satisferait guère la France, notamment.
Johanna Hochstein en direct de Bruxelles. Nous sommes en ligne comme convenu avec Marie-Françoise Renard. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur agrégé, spécialiste de la Chine à l'Université d'Auvergne. On va bien sûr évoquer le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais tout d'abord une question sur l'Europe et les États-Unis. Les relations ont pu être compliquées, mais à ce point?
Oui, c'est une situation qui est quand même très difficile parce que les États-Unis sont le partenaire traditionnel de l'Europe, non seulement sur le plan économique, mais beaucoup sur le plan militaire, sur le plan politique, dans les institutions internationales. Et donc c'est une rupture qui laisse beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir, on pourrait dire, du bloc de l'Ouest, puisque c'est ce bloc qui s'est constitué au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui est en train de voler en morceaux.
Quel poids économique représente l'Union européenne pour les États-Unis?
Alors, l'Union européenne est un partenaire commercial important des États-Unis, mais les États-Unis sont en déficit avec l'Europe. Et donc, les États-Unis reprochent beaucoup à l'Union européenne de mettre des taxes et surtout des normes. En fait, quand on compare le protectionnisme américain et le protectionnisme européen, il n'y a pas tellement de différence. Mais les États-Unis importent beaucoup plus de produits européens que l'Europe n'importe de produits américains.
Puisque la guerre, entre guillemets, est déclarée, est-ce que les lois de blocage européennes peuvent-elles être efficaces? Est-ce qu'elles peuvent être efficaces, ces lois-là?
Alors, on peut espérer, notamment vis-à-vis de l'Iran, que les lois soient appliquées. Je crois qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être encore mises en place pour qu'elles soient appliquées, parce que la position américaine risque, dans un premier temps, de coûter cher aux entreprises européennes. Et il serait important de savoir si les Européens peuvent vraiment avoir une stratégie commune face aux États-Unis pour se libérer un peu de l'emprise américaine. Mais c'est quand même très difficile dans un contexte où beaucoup de ces échanges et ces investissements se sont faits en dollars.
Et puis les priorités des uns ne sont pas les urgences des autres. On a vu l'Allemagne et ses voitures, et d'autres pays ont d'autres priorités.
Oui, alors dans un premier temps, on a quand même l'impression que les Européens font front commun. la politique commerciale, elle est définie au niveau européen, et on peut quand même espérer que la moindre des choses serait vraiment que les Européens se rendent compte qu'il est absolument impératif que face aux États-Unis, face au front commun. Ça, c'est vraiment impératif.
Marie-Françoise Renard, vous vous attardez beaucoup sur la Chine. La Chine construit ses nouvelles routes de la soie, et son président, Xi Jinping, travaille son image de sage et de responsable posé. Il en a l'opportunité, peut-être parce qu'en face de lui, il a Donald Trump.
Oui, alors Xi Jinping s'engouffre dans toutes les failles ouvertes par Donald Trump depuis qu'il est élu. On l'a vu à Davos, lorsque le président chinois s'est fait le défenseur du multilatéralisme, et depuis il n'a pas changé de position, même si, quand on regarde dans le détail, les institutions internationales créées par les Chinois sont officiellement multilatérales, mais la Chine est quand même très très dominante, donc c'est un multilatéralisme quand même un petit peu à la marge, mais il va s'engouffrer dans toutes ces failles, notamment pour défendre un protectionnisme minimal, et pour insister sur les coûts de la guerre commerciale. De même que par rapport à l'Iran, ce sommet qui vient d'avoir lieu à Shanghai montre que le président chinois essaie d'avoir une attitude raisonnable pour ne pas remettre en cause ces accords qui avaient été signés et que Trump vient de remettre en cause.
D'un mot finissant, vous parliez à l'instant du protectionnisme. Tout le monde fait du protectionnisme, mais quelle est la facture de l'isolationnisme à la Trump ? Pour les États-Unis.
Le problème, si vous voulez, c'est que tout le monde fait du protectionnisme parce que le protectionnisme se justifie dans un certain nombre de cas. Le problème de la position actuelle de Trump, c'est qu'il se lance dans une guerre commerciale qui va coûter cher à tout le monde, parce que si l'acier coûte plus cher aux États-Unis, tous les producteurs américains qui construisent des produits avec de l'acier vont les payer plus cher, donc les consommateurs vont les payer plus cher. S'il va jusqu'au bout de sa logique, la Chine prendra des représailles et peut très bien mettre des droits de douane sur le soja et atteindre les États américains qui sont les États des électeurs de Donald Trump. Donc on risque d'avoir une surenchère qui ne rapportera rien à personne parce qu'avec les chaînes de valeur, il y a une très forte imbrication de toutes les économies, l'économie chinoise et l'économie américaine. Et donc ces mesures qui sont prises par Trump ne sont pas des mesures, alors peut-être qu'elles sont réfléchies parce qu'elles sont sans doute électorales, mais du point de vue économique, ce type de guerre commerciale coûte cher aux producteurs, aux consommateurs et ne fait qu'accroître les tensions entre les pays.
Merci infiniment. Merci Marie-Françoise Renard d'avoir accepté notre invitation et bonne soirée à vous. Refermons cette édition avec une pratique qui, selon le Fonds international pour la protection des animaux, n'a pas sa place dans les temps modernes. La chasse au rorqual commun est de nouveau autorisée en Islande à compter d'aujourd'hui. En 2016, la société de pêche avait dû remiser ses harpons en raison de complications commerciales avec le Japon, principal marché pour la viande de baleine. C'est un reportage à Reykjavik de Jérémy Richard.
Dernier lifting en cale sèche dans le port de Reykjavik. Dans quelques jours, les deux navires de Kvalur vont reprendre la mer à la recherche de rorqual commun. Les quotas autorisent jusqu'à 161 prises cette année. L'espèce est en danger depuis 1996, mais Christian Lofsson, directeur de la firme islandaise, le conteste.
Dans la région où nous chassons, l'estimation du stock est d'environ 40 000 cétacés et nous en attrapons 160 par an. Si leur population était vraiment très faible, nous ne chasserions pas la baleine, mais avec plus de 40 000 rorquals communs en mer, on ne risque pas l'extinction de l'espèce.
Le PDG de 75 ans s'appuie sur les données actualisées de l'Institut maritime d'Islande, celle de l'Union internationale pour la conservation de la nature datant de 2001. Au-delà de la cruauté de l'activité, c'est aussi sa contradiction avec l'observation des baleines, une des attractions préférées des touristes. Sigurd Steinmarsson est le représentant du Fonds international pour la protection des animaux.
La chasse à la baleine, particulièrement celle au rorqual commun, une espèce menacée, ne se marie absolument pas avec l'observation des baleines, pour des raisons évidentes. C'est donc préjudiciable pour la réputation de l'Islande et son image de destination où l'on peut découvrir la nature à l'état sauvage.
La réputation de l'île volcanique est-elle vraiment entachée ? Maria Gunnarsdóttir est chargée des questions touristiques chez Íslandsstofa, société semi-gouvernementale qui promeut l'Islande à l'international.
Nous n'avons pas d'études qui démontrent qu'il y a un impact ou non de cette activité sur l'image du pays. C'est ce sur quoi le ministère des Pêches va donc travailler, le lancement d'une étude sur les effets de la chasse à la baleine. Et je crois que c'est important pour prendre les bonnes décisions et s'appuyer sur des faits précis.
Le gouvernement a indiqué qu'une décision serait prise sur la continuité ou non de cette activité en Islande d'ici l'automne prochain.
Quelques mots de la météo de demain lundi. 30 départements sont en vigilance orange en raison des orages du Midi-Pyrénées à la Picardie en passant par le centre, le Limousin, l'Île-de-France et la Normandie. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.